Bonjour mes frères et sœurs.
Eh bien, nous voilà arrivés maintenant au chapitre 10 de la lettre de l'Épître aux Hébreux. Je vous rappelle que je pense que cette épître a été écrite par Paul, mais bon, il n'y a rien qui est sûr à ce sujet. C'est juste une conviction parce que je trouve que c'est lui qui serait le mieux, le plus à même d'écrire de telles choses et que c'est son style quand même. Bon, alors voilà, c'est pas le principal, mais si vous prenez la prédication, si c'est la première fois que vous venez écouter une prédication sur cette épître aux Hébreux, je préfère le dire tout de suite, parce que je vais dire Paul. Prions. Seigneur Jésus, je te prie que tu bénisses les paroles que je vais dire et que cela donne de la force, du courage à chacun et chacune de connaître la vérité et de pas simplement croire, mais de connaître au nom de Jésus. Amen. Alors, nous voilà dans le chapitre 10, je fais la lecture au verset 1. La loi, en effet, il dit en effet, parce qu'il vient de dire sous toutes sortes de formes ce que la loi faisait, a fait. Alors, la loi, en effet, possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir. Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés, mais la réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux, des boucs, enlève les péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, Jésus-Christ a dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as pas accepté ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il déclare « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alors, Paul, à la manière que frère Osborne utilisait, répète les choses afin d'être bien certain d'avoir été bien compris. Frère Osborne, il faisait comme l'apôtre Paul. Si vous lisez ses livres, vous allez voir que dans chaque chapitre, il répète un peu les choses du précédent et il y ajoute quelque chose en plus. C'est pourquoi Osborne a conduit des millions de personnes à Jésus-Christ, parce que il avait le respect profond du style littéraire des Saintes Écritures. Il utilisait la méthode de l'apôtre Paul. Donc, ici, Paul répète que la loi n'était que l'ombre de ce qui allait suivre. Alors, souvenez-vous, quand Paul parle des biens à venir, il parle à des Hébreux, qui avaient suivi la loi de Moïse toute leur vie et qui s'étaient convertis, et il leur dit à Jésus-Christ, et il leur dit là que tout ce qu'ils ont suivi n'était que ce qui précédait la réalité qui devait venir par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il est en train de dire à ces Hébreux. La loi, l'ombre, indique bien qu'il y a une réalité qui est projetée par la lumière de Dieu, mais c'est juste l'ombre que les hommes ont reçue quand ils ont reçu la loi, l'ombre de la réalité. Et l'ombre, c'est le côté sombre, et le contour de la réalité. Quand vous regardez votre ombre, eh bien, c'est sombre, et puis c'est juste le contour de votre réalité qui peut être même déformé. Depuis Jésus, ceux qui s'approchent de Dieu peuvent s'approcher d'abord personnellement de Dieu parce que Jésus est venu, et ils ont été rendus parfaits. C'est pour ça qu'ils peuvent s'approcher de Dieu. C'est-à-dire que tout a été fait par Jésus-Christ pour que nous soyons propres à toute chose, dans l'œuvre de Dieu, pour Dieu, et recevables par Dieu le Père. Alors, on a déjà vu ces mots « parfait »,« perfection », »,« consommé » dans Hébreux 2, 1 et Hébreux 5, 4. Je ne vais pas revenir là-dessus. Aucune question quant à notre état devant Dieu ne doit pouvoir être soulevée si nous croyons véritablement à Jésus-Christ et au sacrifice parfait qu'il a accompli sur la croix. Nous sommes consommés. Alors, qu'est-ce que signifie consommer ? Eh bien, si vous regardez le dictionnaire, il y a beaucoup de significations au mot consommer, mais celle que l'apôtre emploie là, c'est parvenu à un degré élevé de perfection, accompli, si vous voulez. Nous sommes consommés, rendus parfaits, tout à fait propres à nous trouver dans la sainte présence de Dieu. Or, c'est ce que les sacrifices offerts sous la loi ne peuvent faire pour des gens pécheurs. Et Paul en donne la raison encore un peu plus loin. Vous verrez, il y a encore trois chapitres après le chapitre 10. Et qu'est-ce que Jésus dit ? Eh bien, Jésus dit en tant qu'homme, entrant dans ce monde, qu'il est venu pour... Alors, je le relis. Le Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, etc. Dans l'Ancien Testament, nous montre souvent que Dieu ne prend pas plaisir aux holocaustes et aux sacrifices. On va lire juste quelques textes, 3-4 textes qui disent cela, afin que vous ayez bien l'assurance que Dieu l'a dit, et pas simplement que, voilà, je vous donne les références. Psaume 51, verset 18, où Dieu dit, enfin c'est pas Dieu, c'est l'auteur c'est David qui le dit, « Si tu avais voulu des sacrifices, il dit à Dieu, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes et les sacrifices, parce que les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » Bon, ça, c'est David qui le dit. Et on peut croire ce que David dit, ce qu'il ne va pas commencer à raconter des mensonges et tromper le peuple. C'est dans un des psaumes. Dans Jérémie 6, 20 maintenant, Jérémie 6, 20, je n'ai pas besoin, hein. Attendez, c'est pas 6, 20, je n'ai pas besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain, vos holocaustes ne me plaisent pas et vos sacrifices ne me sont pas agréables. Là, c'est pas David qui le dit, là, c'est pas Jérémie, là, c'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui dit, vos sacrifices ne me sont pas agréables. Dans toujours le prophète Jérémie, 7, 21, 23, voilà ce qui est dit. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la viande. En effet, je n'ai pas parlé à vos ancêtres, avec vos ancêtres. Je n'ai pas parlé avec vos ancêtres. Je ne leur ai donné aucun ordre au sujet des holocaustes et des sacrifices le jour où je les ai fait sortir d'Égypte. Voici l'ordre que j'aurais donné, écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple, marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin d'être heureux. Dieu dit, quand vous êtes sortis d'Égypte, je ne vous ai pas parlé de loi. Je ne vous ai pas parlé de loi, je ne vous ai pas dit que j'allais vous donner une loi, et avec des sacrifices, et des... J'aime pas ça. J'ai été contraint à cause de votre désobéissance avec l'histoire du veau d'or et de votre rébellion à Mara parce que l'eau était amère. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je vous ai donné des lois, mais j'en ai marre de vos sacrifices. Vous croyez que ça me fait plaisir, moi, de voir vos sacrifices ? Pas du tout. C'est ce que Dieu est en train de dire. Il dit, voilà, du temps de Moïse, au départ, au commencement, avec Moïse, il n'était pas du tout question de loi. Dans Michée 6, 68, maintenant, ça devient un peu plus clair, hein. Dans Michée 6, pas 68, 6, 6 à 8, pardon, il est dit, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut ? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ? L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile ? Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché ? Vous voyez la question qu'il pose. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà. Il y a une loi morale, oui d'accord, Dieu a donné une loi morale. Mais la loi des sacrifices, c'était quelque chose qui était... Parce que l'homme était incapable d'obéir. Ce que j'attends de toi, c'est le bien et tu ne le fais pas. D'abord, tu es même incapable de le faire. Alors le problème, c'est que personne ne peut offrir à Dieu une offrande parfaite de soi-même. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas offrir une offrande à Dieu qui puisse lui être agréable. Personne, sinon Dieu lui-même, venant en chair, Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est-à-dire que Dieu a décidé, avec son conseil, voilà, eh bien, je vais y aller moi-même. Et il a formé un corps à sa parole. Alors, je vais revenir là-dessus, je vais vous expliquer. C'est pourquoi Dieu est venu en chair. Quand l'ange dit à Marie, tu lui donneras pour nom Jésus, parce que le prophète a dit qu'il s'appellerait Emmanuel, Jésus, c'est Dieu avec nous. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Et il est venu dans une chair semblable à la nôtre, c'est aussi ce que la Bible nous dit, pour offrir le sacrifice parfait, c'était le but, qui rend parfait ceux qui croient que ce sacrifice est parfait. Je répète, il est venu offrir ce sacrifice parfait, qui rend parfait ceux qui croient que ce sacrifice est parfait, pas les autres. Le sacrifice de Jésus était de faire la volonté de notre Père invisible, qui était de résoudre, une fois pour toutes, la question du péché. C'est pourquoi dans le texte juste avant qu'on a étudié vendredi passé, il dit « J'ai ôté le péché ». Alors c'est fini, je l'ai ôté, il n'y a plus de péché, j'ai ôté le péché. Jésus dit « Cela était écrit dans le rouleau ». Ou, si vous préférez, en entête du livre de vie. C'était écrit. C'est comme ça que ça devait se faire. Et Jésus nomme les quatre genres d'holocauste, d'offrande de gâteau, de sacrifice, de prospérité, sacrifice pour le péché. Vous trouvez ça dans Hébreu, là, on l'a lu tout à l'heure dans le chapitre 10. Et nous voyons là que cet unique sacrifice est le fruit de l'obéissance parfaite du Seigneur Jésus. Parce que ne l'oubliez jamais. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Les chrétiens n'adorent pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Notre Père Céleste. Sa première création, la première création de Dieu, c'était de se créer lui-même. Écoutez, ça vous choque peut-être un petit peu, mais la première création de Dieu, ça a été de parler. On trouve ça, et ça a fait un bruit terrible que les scientifiques appellent le Big Bang. C'est Dieu qui a parlé. Et cette parole qui est sortie de lui, c'est sortie de lui, c'est sortie du Père. Eh bien, c'est cette parole qui a tout créé. On lit ça dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Le Fils, c'est-à-dire Jésus, est l'image du Dieu invisible. Alors, quand on dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, oui, mais il est. On devrait dire, ça choquerait beaucoup moins les musulmans et les juifs, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Compris ? Il y a un seul Dieu qui crée quelque chose, c'est-à-dire qui émet quelque chose, qui sort de lui. Et ce qui sort de lui, c'est sa parole. Il parle. Et c'est cette parole qui a tout créé. Je trouve ça dans l'évangile de Jean, maintenant, si vous voulez bien lire avec moi, Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement de quoi ? Au commencement, quand Dieu a créé, au commencement, la parole existait déjà. Au commencement de la création, la parole, elle existait déjà. Avant que les choses soient créées, au commencement de toute chose, déjà la parole existait. Elle existait déjà. La parole était avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne dit pas des choses contre lui-même, il est un avec ce qu'il dit. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Jésus dit qu'il est la parole de Dieu, la parole faite chair. Alors s'il est la parole de Dieu faite chair, il est Dieu. Pour ceux qui disent « oui, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu », mais c'est parce que vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, la parole. Et tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. C'est ce que Colossiens chapitre 1 verset 15 nous dit. Que tout a été fait par la parole, c'est-à-dire par cette émanation de Dieu, ce qui est sorti de Dieu, cette parole, elle a été créatrice, elle a créé toute chose, il n'y a rien qui a été fait sans elle. En effet, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Bon, ben ça c'est votre problème si vous ne l'accueillez, si vous ne le recevez pas. Mais moi j'ai reçu cette parole, j'y crois fermement. Il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute, ô Israël, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est notre Père Céleste. Et il a parlé. Et il y a eu le commencement de toute la création. Cette parole a créé toute chose. Et un jour, Jésus-Christ, la parole de Dieu, remettra toute chose à son Père et il y aura une nouvelle création. D'accord ? Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois dieux. Mais Jésus est Dieu parce qu'il est la parole de Dieu. C'est comme par exemple, si moi je parle, et si je vous dis, aujourd'hui il fait gris dehors, ce que moi je vois, et ce que je sais, et ce que je dis, c'est la même chose. Ça fait pas. Ma parole n'est pas un deuxième Michel Jonton, ou un deuxième je ne sais quoi. Non. Il y a un seul Dieu qui a parlé. Il n'avait jamais parlé avant. Pourquoi ? À qui ? Il n'y avait rien. À qui voulez-vous qu'il parle ? Mais là, il a parlé. Quelque chose est sorti de lui, est venu en face de lui, et c'est ça que même les chrétiens ne comprennent pas. Ils ont inventé cette trinité. Enfin bon. C'est quand même important, il faut. Parce que Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous êtes encore dans vos péchés. Il ne suffit pas simplement de croire en lui, il faut croire dans ce qu'il est. Il est quoi ? Il est Dieu. Il est la parole de Dieu faite chair. Voilà. Et un jour, tout retournera au Père et il y aura une nouvelle création, un nouveau ciel, une nouvelle terre avec l'épouse de Christ. Voilà. Bon, mais ça c'est une autre prédication. Donc la première création a été le fait de parler et puis cette parole qui était sortie de Dieu a tout fait, a tout créé. Et cela dans un but. Quel but ? Le but de se glorifier. Dieu s'est glorifié en face de son ennemi Satan, qui contestait tout, qui s'était rebellé contre Dieu et qui continue à se rebeller. Mais il a été vaincu à la croix par Jésus-Christ. et nous avons un ennemi vaincu. Pourquoi vous avez peur de lui? Pourquoi vous avez peur de Satan? Pourquoi? Nous n'avons pas à avoir peur de lui. Nous lui disons simplement, nous savons que tu es vaincu, tu as été vaincu à la croix, Satan, toi, avec tous tes petits démons, vous êtes vaincu à la croix, nous le savons et nous prenons autorité maintenant. Et Jésus, la parole de Dieu, vit en nous, sa parole est dans notre bouche et nous déclarons la victoire sur la maladie, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur l'injustice, la victoire contre tout ce qui est mal, voilà. Si seulement vous pouviez croire ça, vous seriez heureux. Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs avec ce que j'ai dit. Qu'ils se donnent la peine de le réécouter, de le méditer, d'y réfléchir et de faire le choix de croire ce que la Bible dit et non pas ce que les traditions racontent. Merci Jésus. Amen. Au revoir.